remarqué, ben, Gosport en grève. Hein. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont des jeunes alors, totalement responsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir. Alors, on a commencé le Canu Info aujourd'hui avec un petit peu de musique de Muni. Deux minutes de retard pour vous faire une bonne surprise. Comme ça, vous avez cru que malheureusement, il n'y aurait pas le Canu Info. Et bonne nouvelle, on est bien là. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par un reportage sur l'action du collectif des étudiants et étudiantes sans papier à Lyon hier.
Et puis après, on va retourner sur une grève victorieuse, et comme c'est pas souvent, on est très contente, des salariés de l'entreprise Carbone Savoie à Vénissieux.
Et puis on va parler de l'état d'urgence et des conséquences que cela peut avoir... au quotidien avec des mesures sécuritaires.
Et puis après, on va s'intéresser à une carte collaborative qui a été créée sur Lyon sur des dispositifs pour repérer les dispositifs anti-SDF et les condamner.
Après, on parlera de la Poste et des conditions de travail à la Poste.
Pour montrer que parfois quand même, les mouvements peuvent être victorieux.
On ira à Paris pour parler de la répression très forte qu'il y a eu sur les Kurdes.
Et enfin, on vous donnera des nouvelles de Notre-Dame-des-Landes.
Pour finir sur le traditionnel agenda. Alors, on va commencer avec le reportage. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a des petits problèmes logistiques quand même, mais c'est parti.
De la résistance, Lyon, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lyon, capitale de la résistance. De la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à l'Azad et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante en récit.
Standing down in New York town one day. Singing hey, 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 hey.
Il est bien de tous les sans-papiers.
I was broke, I did not have a dime. Good man gets a little hard luck sometimes.
Have a good man. Solidarité avec les sans-papiers. So, so, so. Solidarité avec les sans-papiers. So, so, so.
Donc ça fait un peu plus d'un mois qu'on essaye d'inscrire une quinzaine de camarades qui sont demandeurs d'asile et sans papiers. Du coup on a rencontré le vice-président une première fois. Qui finalement nous a fait comprendre que c'était le président de l'université qui bloquait pour les inscriptions. On sait que voilà, inscrire les sans-papiers même au second semestre, c'est quelque chose de possible. Du coup, il y a beaucoup de camarades qui sont arrivés en France par la Méditerranée. Ça fait moins de 3 mois qu'ils sont là, et donc ils sont demandeurs d'asile, mais bon, voilà, ils sont de fait dans une situation où sont papiers, mais du coup, ils sont dans une situation de grande vulnérabilité, et d'incertitude administrative, et donc du coup, ils veulent étudier. Donc voilà, nous, on pense que c'est pour ça que la solidarité doit leur permettre de pouvoir étudier. Et du coup, ce matin, on avait décidé d'occuper les locaux de la présidence pour rencontrer le président, puisque c'était lui qui bloquait. Et du coup, on a réussi à pénétrer dans les bâtiments, et finalement, ils nous ont proposé la seule réponse qu'on a obtenue, on demandait à rencontrer le président. Et la seule réponse qu'on a obtenue, c'était la menace de faire intervenir les forces de l'ordre. Finalement, au bout d'une heure et demie d'occupation, on nous a informé que l'université était entourée de flics, et du coup, face à la pression, vu qu'en plus il y avait des sans-papiers dans l'occupation, on a finalement été contraint de lever l'occupation. On a fait des interventions et appelé à la mobilisation pour dénoncer la répression des sans-papiers. Et voilà, et du coup, maintenant le combat, c'est continuer pour l'inscription immédiate des sans-papiers. Donc, il y a une assemblée générale qui sera appelée lundi à 14h sur le campus des quais de l'Université Lyon 2. Et là, ce soir, finalement, on a réussi, en mobilisant toute l'après-midi, en faisant des débrayages, des interventions dans les amphis, à être plus de 300 et à prendre le grand amphithéâtre. Où le préfet devait faire une conférence sur l'état d'urgence. Et voilà, donc c'est une victoire. Voilà.
Et à ton avis, pourquoi ils veulent pas inscrire les étudiants à la PAC?
Du coup, ils nous ont dit clairement que s'ils refusaient les inscriptions, c'était sur ordre de la préfecture, quoi. Que eux, ils doivent défendre leur crédibilité vis-à-vis des autres institutions, et que clairement, c'était la préfecture qui bloquait, quoi. Donc, nous, on dénonce la collaboration des instances dirigeantes de l'université et de la préfecture. Le grand slogan aujourd'hui, c'était c'est pas la préfecture qui fera sa loi à l'université, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est déjà un bon début de réponse à la préfecture et à la présidence. Voilà.
Vous pouvez retrouver le collectif des étudiants et étudiantes sans papiers, sans papiers et solidaires sur leur Facebook ou bien par mail au collectif.étudiants.étrangers.lyon@13h.net. En cas d'urgence, vous pouvez les contacter par téléphone au 07 68 25 59 86 ou enfin les rencontrer sur le campus de Lyon 2, sur lesquels vous pourrez découvrir le journal qu'ils éditent et dont on a déjà parlé dans le Canu Info. Pour le prochain rendez-vous, c'est lundi à 14h avec une assemblée générale sur le campus des quais.
Donc voilà, ça c'était donc hier à partir de midi. quand le collectif des étudiants sans papier a occupé les bâtiments de la présidence de Lyon 2 pour exiger l'inscription immédiate d'une quinzaine de demandeurs d'asile et sans papier à l'université. Et du coup, c'était plus d'une centaine de personnes qui étaient sur le campus et qui ont débrayé dans les amphis. Il y avait une équipe aussi à Bron, à l'université de Lyon 2, qui ont appelé à une manifestation à 16h. Voilà, pour l'inscription immédiate de tous les sans-papiers, alors que devait se tenir une conférence du préfet dans le Grand Amphi sur l'état d'urgence. Voilà, donc on remercie Arthur pour son reportage et on espère qu'il n'écoutera pas tout le temps du bluegrass quand même.
Mais en tout cas, voilà. Et sans transition, on va vous parler de la victoire à Carbonne-Savoie après 15 jours de grève. Des salariés du coup qui sont mobilisés contre la reprise de leur entreprise. Ce qui est du coup super chouette parce que c'est rare qu'on entende parler de grève victorieuse en ce moment. Du coup, après 15 jours de grève reconductible avec près de 90% de grévistes, les salariés de l'entreprise Carbonne-Savoie, ça représente environ 120 personnes à Vénissieux, ont décidé de reprendre le travail, estimant avoir été entendus par leurs dirigeants. Donc en effet, selon eux, l'entreprise a dû plier face à la détermination des grévistes et payera l'intégralité des jours de grève. Alors qu'est-ce que c'est que Carbone-Savoie ? Carbone-Savoie, c'est pas en Savoie, mais une société spécialisée dans la fabrication des cathodes en carbone et en graphite à Vénissieux. Et depuis le 1er février, avait lieu une grève illimitée sur les deux sites de Carbone-Savoie à l'appel des syndicats CGTFO et CGC, pour exiger de l'actuel actionnaire Rio Tinto des conditions de cession acceptables. En effet, Rio Tinto envisage de se séparer de Carbone-Savoie, comme c'est souvent le cas, en la cédant au fonds de retournement Alandia Industries. À 3 semaines de la fin du processus de cession, aucun projet industriel n'a été présenté au personnel. Les niveaux d'investissement dérisoires programmés ne sont pas suffisants pour assurer la pérennité et le développement de l'usine. Et du coup, pour les salariés, c'est la mort annoncée à très très court terme. Et le futur repreneur avait déjà donné le ton en annonçant lors d'un comité central d'entreprise que tous les accords collectifs seraient renégociés. C'est une des raisons qui a poussé les grévistes à réclamer à Rio Tinto une prime de cession de 10 000 euros. Par ailleurs, les syndicats ont proposé un nouveau calendrier de négociation à leur direction pour demander un report de la vente de plusieurs mois afin d'obtenir le projet industriel d'Alandia pour Carbone-Savoie et des garanties sur l'emploi. Par ailleurs, une délégation sera reçue au ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique le 16 février. Pour l'intersyndicale, du coup, c'est au gouvernement d'interagir dans cette affaire. Et selon eux, qui peut encore accepter qu'un grand groupe comme Rio Tinto continue d'empocher crédit impôt compétitivité emploi, crédit impôt recherche, électricité gratuite et autres exonérations de cotisations, sans jamais donner de garantie de pérennité pour les usines dont ils ont la gestion en France. Donc qu'est-ce qu'ils ont obtenu et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé hier d'arrêter leur grève illimitée ? Donc Rio Tinto va mettre 60 millions de plus sur la table dans le cadre de la cession et ne met plus aucune condition, ni sur son assignation au TGI dans le cadre de la cession, ni sur le retrait de l'expertise. Et donc au regard des négociations, selon les syndicats, qui s'ouvrent dans le cadre d'un contexte nouveau créé par ce rapport de force et aussi par les premières avancées obtenues, il a été décidé la fin de la grève générale et du coup le fait que l'intégralité des jours de grève soit payée. Face à la crise, les luttes et la détermination des salariés donc, peuvent donc encore créer les conditions d'une autre logique pour les industries, et notamment la réappropriation de celles-ci pour répondre à l'intérêt général de nos territoires et de notre pays. Du coup, ne vous arrêtez pas là, et voilà, les moyens de production aux ouvriers.
Et voilà, alors toujours dans la rubrique locale, maintenant on va passer à un reportage qui a été fait donc, sur la manifestation qui a eu la semaine dernière contre l'état d'urgence. Il y avait déjà eu une autre manifestation le 30 janvier à Lyon et dans plein d'autres villes. Et là, il y en avait une deuxième à Lyon avec pas mal de personnes qui étaient là pour lutter contre l'état d'urgence dans la Constitution. Et on peut rappeler notamment qu'il y a aussi l'inscription de la déchéance de la nationalité dans la Constitution qui a été adoptée à l'Assemblée le 10 février et qui doit encore être examinée au Sénat puis par le Congrès. Alors, je lance le reportage.
Radio Canu, reportage.
C'est
La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc, c'est en effet l'état d'urgence, le temps nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence. Mais tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens.
Ça peut être pour toujours, that could be forever.
Jusqu'à ce qu'on puisse, évidemment, en finir avec Daesh.
Février 2016, chronique de l'état d'urgence.
BFM, 6 février 2016.
À l'origine des menaces, un groupe qui se ferait appeler Evacuation Squad, en français, brigade d'évacuation. Son mode d'action, des appels anonymes, une bande enregistrée, avec ce message.
Il y a des bombes dans tous les lycées, vous allez tous sauter.
France 3, région Bourgogne, 8 février 2016.
Je sais pas avec quoi ils ont tapé là-dessus.
C'est tout petit matin, vers 6h, que des policiers parisiens enfoncent la porte de cette maison. Ils recherchent Vincent, l'un des fils de la famille.
Ils sont allés vite, ils ont trouvé la chambre de Vincent, ils ont dit cible en vue. Et puis donc après, ils m'ont dit, on vient pour complicité de menaces de destruction de biens et de personnes.
Suite à cette arrestation, Vincent a été entendu pendant 2 jours. Le jeune homme de 18 ans qui s'est dit proche d'Anonymous est poursuivi parce qu'il a refusé de donner aux enquêteurs les moyens d'entrer dans son ordinateur intégralement crypté. La police suppose qu'il est l'administrateur d'un serveur de messagerie qui aurait permis de lancer les fausses alertes à la bombe, notamment dans les collèges et lycées lyonnais.
À loi exceptionnelle.
Mesure exceptionnelle.
Dans un établissement lyonnais victime de fausses alertes à la bombe, depuis plus d'une semaine, des contrôles systématiques des élèves ont lieu lors des entrées dans l'établissement.
Le climat sécuritaire ambiant légitime la fouille des élèves qu'on prétend vouloir protéger. Situation ubuesque où les écoliers, connus de tout le personnel, doivent montrer qu'ils ne sont pas dangereux pour leurs camarades.
Entretien.
Oui, alors, donc du coup, moi je suis assistante d'éducation dans un collège lyonnais depuis 3 ans. Et donc une de nos missions, on va dire même la mission principale, c'est d'encadrer les élèves sur les temps où ils ne sont pas avec les enseignants. Au début de l'année, ou au moins les 2 dernières années, on ne faisait pas forcément de contrôle à l'entrée de l'établissement. On ouvrait même manuellement le portail de notre bureau et il y avait on laissait aller venir assez facilement les élèves. On les contrôle, on les voit de notre bureau, voir qui rentre, qui sort, mais il n'y avait pas forcément une présence adulte à l'entrée et à la sortie des élèves. Depuis les attentats du 13 novembre, on nous a demandé d'être présents au portail lors des entrées massives à 8h30 et des sorties massives à 16h30. Ensuite, depuis les menaces que l'établissement a reçues mardi dernier, il y a de nouvelles mesures qui ont été prises. Et là, par contre, on doit effectuer un contrôle visuel des sacs de chaque élève. Et on doit être systématiquement présent à chaque entrée de qui que ce soit, d'ailleurs, adulte ou enfant. Et on ne contrôle que les sacs des élèves. Donc on leur fait ouvrir leurs sacs. On n'a pas le droit de les toucher, mais on doit vérifier visuellement l'intérieur de leur sac.
D'accord. Et quand tu dis que les élèves, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent entrer et sortir et ne sont pas contrôlées ?
Les adultes et l'équipe enseignante n'est pas contrôlée. Je crois qu'on n'a pas le droit de leur demander d'ouvrir leur sac. Donc on renvoie les adultes qu'on ne connaît pas à l'entrée principale du lycée. Et entrée collège, on laisse rentrer que nos parents d'élèves qu'on connaît du collège et les enseignants collège-lycée.
D'accord. Et donc ça, ce type de contrôle, c'est intervenu depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps le contrôle systématique de tous les élèves ?
Ça fait un peu plus d'une semaine depuis les appels qui ont sous-entendu une alerte à la bombe dans l'ensemble de l'établissement. Là, on a vraiment été contraint d'effectuer ce contrôle visuel.
D'accord. Et alors, ça s'est organisé comment, l'injonction de faire ce contrôle ? Comment on vous a demandé de contrôler tous les élèves individuellement à chaque entrée, chaque sortie ?
Au début, ça a été une demande de notre responsable d'équipe, donc la CPE, qui nous a dit à partir de demain, bah, c'était le lendemain du mardi de l'alerte à la bombe, on contrôlera les sacs, etc. Il y aura un adulte présent à chaque entrée. Et puis, ensuite, on a eu une réunion avec le proviseur vendredi dernier, donc ça fait une semaine. Et là, il nous a demandé de... Enfin, oui, il nous a même... Comment dire, il nous a... Oui, contraint à le faire, c'est-à-dire que on a... textuellement, c'était c'est comme ça et pas autrement. On doit obéir aux ordres. Et on n'a pas le choix. Et si on n'est pas content, si la situation ne nous va pas, on peut démissionner. C'est ce qu'on nous a dit. Et on nous a même laissé entendre qu'on serait très facilement remplaçable, pas du tout indispensable. Et ça a été dit plusieurs fois et bien répété que nos états d'âme ne l'intéressaient pas, qu'on n'était pas là pour... sous-entendu pour réfléchir ou discuter quelques mesures que ce soit, qu'on avait juste à faire notre boulot, que c'était dans le cadre de nos missions. Et si on ne voulait pas le faire, eh bien, on pouvait démissionner. Voilà.
D'accord. Alors, depuis, ça fait donc ça fait combien de temps ? Plus d'une semaine donc, que vous faites ça dans votre établissement ?
Ça fait plus d'une semaine, oui.
Ça se passe comment au quotidien avec les élèves, les collégiens ?
Alors, au début, quand on leur a demandé le lendemain d'ouvrir leur sac, tous n'étaient pas au courant de l'alerte à la bombe de la veille. Certains l'avaient appris par leurs parents, il y a eu un article dans le Progrès. D'autres n'étaient pas au courant, donc on a essayé d'expliquer. Les élèves ont majoritairement, ils tournent un peu, bon, surtout les plus âgés, les troisièmes, ils tournent un peu la situation à dérision en nous disant vous pensez vraiment qu'on cache des bombes? Voilà, ils le prennent sur le ton de l'humour, certains. D'autres soulignent le caractère tout à fait inutile de la mesure, puisque comme on regarde juste, on ne peut pas vraiment voir ce qu'ils ont au fond du sac ou même ce qu'ils pourraient cacher dans leur poche. Donc ils soulignent vraiment l'inutilité de la mesure. Et une bonne partie, peut-être les plus jeunes, se plient au contrôle sans redire quoi que ce soit. Et on n'a pas eu de refus. Enfin, il n'y a pas eu d'élève qui s'est vraiment prononcé en disant non, je n'ouvrirai pas notre sac. Alors qu'à la limite, ça pourrait être leur droit aussi quoi, de refuser.
Et est-ce que tu as eu des retours sur ce qu'en pense l'équipe encadrante, le reste de la vie scolaire, les enseignants, et, ou alors aussi les parents d'élèves ?
Alors oui, il y a eu différents retours. Au niveau des AED, on est majoritairement contre cette mesure, de par peut-être nos convictions personnelles, notre vision des choses. On trouve ça tout à fait... anti-pédagogique de suspecter nos élèves, même absurde de penser que le danger peut venir de leur part, de la part de collégiens. Et puis le caractère aussi tout à fait absurde de la mesure, étant donné qu'on ne contrôle pas le côté primaire, et puis on va pas contrôler non plus les adultes. Donc pour les AED, voilà, c'est vraiment... Et puis la charge de travail, l'absurdité de faire des allers-retours constants, et puis de contrôler des élèves qu'on connaît depuis 3 ans, quoi. Au niveau de l'équipe des enseignants, il y a pas mal d'enseignants qui sont contre la mesure, mais on en a aussi certains qui trouvent ça tout à fait normal en cas de... de situation, d'état d'urgence, d'appliquer des mesures concrètes. Et puis au niveau des parents, on n'a pas eu de retour de parents qui, à ma grande surprise d'ailleurs, qui se scandalisaient qu'on puisse contrôler, suspecter leur enfant. Aucun coup de fil de ce côté-là. Plutôt des parents qui trouvent ça normal, voire qui souhaiteraient la présence de la police à l'entrée de l'établissement.
Je me casse le cul toute la journée pour votre sécurité. Vrai ou faux ?
Ouais.
Ouais.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News à la une de l'actualité. En France, l'état d'urgence pourrait encore être prolongé de 3 mois. L'Élysée va trancher dans les prochains jours. Alors ces mesures ont été décidées, vous le savez, après les attentats du 13 novembre. Elles sont approuvées par la majorité des Français.
69% des sondés se disent favorables à la prolongation de l'état d'urgence au-delà du 26 février prochain. Dans le détail, 29 se disent très favorables, 10 très défavorables. Autre enseignement, seuls 18% des sondés estiment cette prolongation dangereuse car elle porterait atteinte aux libertés individuelles.
Et en plus, 75% des gens sont d'accord avec lui.
Et alors, quel rapport?
C'est la majorité.
Nous, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle exactement?
À Lyon, samedi dernier,
6 février 2016,
un millier de personnes ont manifesté entre Jean Massé et les terreaux
contre l'état d'urgence et la déchéance de nationalité.
Dans une ambiance festive, ensoleillée et déterminée.
Canu Info
laisse tourner son micro.
Voilà, c'était les sons de la manifestation contre l'état d'urgence à Lyon samedi dernier. Effectivement, le 3 février, le gouvernement annonçait sa volonté de prolonger encore l'état d'urgence de 3 mois. Et le même jour, il présentait son projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui doit faire entrer dans la procédure pénale une partie des dispositions d'exception de l'état d'urgence. Mais ce n'était manifestement pas suffisant aux yeux des sénateurs, puisque le 2 février, le Sénat, où siège une majorité de droite, a adopté une proposition de loi rédigée par des élus des Républicains et du Centre, l'Union des démocrates et indépendants, qui va à certains égards plus loin que le projet gouvernemental. Le texte adopté par les sénateurs prévoit ainsi la création d'un nouveau délit de consultation habituelle de sites internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Du coup, le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne, mettant à disposition des messages, images et représentations, soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes, lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou des représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie et puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Voilà, donc il ne faut pas être trop curieux, sinon vous risquez de vous retrouver en prison pendant 2 ans ou d'avoir 30 000 euros d'amende, même si normalement il y a un petit bémol pour la consultation de ces sites quand c'est dans le cadre de l'exercice du journalisme, de recherche scientifique ou pour apporter des preuves en justice. Voilà, alors après, si vous voulez avoir d'autres témoignages sur les perquisitionnés, les assignés, l'état d'urgence, Vous pouvez écouter aussi sur Méga Combi. Il y a une émission qui s'appelle État d'urgence, qui est très bien. Et sur Son en lutte, il y a aussi un témoignage d'une personne qui avait été assignée à résidence. Sur Son en lutte, il y a également un reportage de la conférence de presse qui avait eu lieu par rapport à la vérité et justice pour Tarek Belgacem, qui a été tué par la police à Barbès le 7 janvier, parce que il était soupçonné d'avoir des explosifs, des armes et d'avoir crié « Allah Akbar ». Et voilà, il y a eu une conférence de presse qui a été organisée par la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives et par la famille Belgacem pour obtenir la vérité et la justice suite à l'assassinat de Tarek qui a été abattu par les policiers en entrant dans le commissariat. Voilà, la version des policiers qui semble avoir été présenté Tarek comme un terroriste pour couvrir leur crime est démenti complètement par la famille et plusieurs témoins. Et bien sûr, maintenant, nous allons passer à la rubrique nationale.
Canu. Alors, Keyos a écrit un recueil.
Bon, d'accord. Petite pause musicale a échoué parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas de bonnes ondes. Mais maintenant, ça risque de marcher. On va vous mettre quand même une petite musique avec notre bonté d'âme.
Connais-tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline et le créole et son mélange de mélanine? Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine et le crack et ses déchets de cocaïne? Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane et les touristes aux seins nus à la plage des Salines pendant que la crise de la banane s'enracine? Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas, les petits garçons, jusqu'à 4 ans, doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite.
petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Sais-tu compris avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables. Nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent casse en tôle tous les vêtements. Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shroud. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Et du coup, après cette coupure musicale avec Kazesh chez moi, on va passer au national. Et alors, on vous a déjà parlé plusieurs fois de Florent, ce syndicaliste à Lyon pour lequel il y a eu une grosse mobilisation parce qu'il aurait pu se faire virer de la Poste. Et à croire que la Poste s'est vraiment pourrie partout, puisque dans Pyrénées-Orientales, la Poste remplace illégalement des grévistes par des intérimaires. Alors, ça fait partie d'un des multiples conflits qui touchent les centres de distribution de la Poste. Une douzaine de facteurs du centre de courrier de Rivesaltes, un peu comme le Muscat, je crois, dans les Pyrénées-Orientales, sont en grève depuis le 30 novembre pour contester un nouveau plan de restructuration. Celui-ci se traduirait par la disparition de 3 emplois sur le site, ce qui augmenterait la charge de travail des autres. Or, dès début décembre, la grève à peine commencée, la Poste a fait appel à 19 des travailleurs intérimaires pour remplacer les grévistes du centre de Rivesaltes. Si la Poste fait régulièrement appel à d'autres salariés du groupe, en particulier des cadres pour assurer la distribution du courrier, même en cas de conflit social, embaucher des intérimaires pour le faire est illégal. En effet, il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail, précise le Code du travail. Donc, il y a un inspecteur du travail qui est venu pour constater l'infraction le 4 décembre dernier et qui disait « L'absence au travail des salariés grévistes a créé un accroissement d'activité. » Et oui, cet accroissement d'activité a été réglé par l'embauche de salariés intérimaires. Ces faits sont réprimés d'une amende de 3 750 €, signale un inspecteur du travail de Perpignan. Qu'importe l'illégalité pour la direction de l'entreprise publique, un délégué syndical de l'entreprise intérim Start People, qui avait tenté d'alerter la Poste et ses collègues intérimaires sur l'illégalité de la procédure, se retrouve aujourd'hui menacé de licenciement pour faute lourde. La Poste l'accuse d'agression et d'entrave au travail des non-grévistes, ce que contestent les représentants syndicaux du site des Pyrénées-Orientales, qui ont décidé de poursuivre leur grève vendredi 5 février, suite à l'échec d'une nouvelle rencontre avec la direction. Là, vous vous rendez compte, ils sont en grève depuis le 30 novembre. La Poste ne propose que des renforts en CDD ponctuels pour laisser souffler les collègues, explique Jean-Michel Sol, délégué Sud PTT dans le département. C'est vrai qu'il y a une baisse du volume de courriers comme le dit la direction, mais pas au niveau des suppressions de postes. Les conséquences pour les postiers, ce sont des souffrances physiques et mentales et des risques pris sur la route pour pouvoir finir les tournées. Sur tous les sites, c'est la même souffrance. Les conflits sont très durs, très longs sur la distribution du courrier. Et en effet, quand même, les conflits autour de la poste depuis des derniers mois se multiplient. Un autre conflit touche le site postal voisin à Cabestany depuis 2 mois. Le mouvement s'est propagé au centre de Mouzillon en Loire-Atlantique fin janvier. À Creil dans l'Oise, une grève de plus d'un mois s'est terminée début janvier. À Neuilly dans les Hauts-de-Seine, les postiers ont fait grève pendant près de 3 mois fin 2015. Au printemps dernier, un conflit avait duré 98 jours à Thuir près de Perpignan. Un mouvement vient de lancer en Dordogne. Comme on vous l'a dit, à Lyon, il y a un mouvement aussi qui a pris ces dernières semaines. À chaque fois, ce sont les restructurations des services de tri qui sont en cause. Il y a une recrudescence des conflits liés aux problèmes d'organisation. La Poste dit qu'il faut supprimer des emplois sur certains sites et donne à côté aux postiers des tâches de plus en plus de communication sur les nouveaux services proposés. Il y a des restructurations des sites tous les 2 ans, mais c'est en fait une réorganisation permanente. C'est un peu, pour eux, le prix à payer pour réaliser le plan stratégique de l'entreprise qui vise à conquérir l'avenir, je cite, tout en supprimant des milliers d'emplois chaque année, évidemment au détriment de tous les salariés qui font vivre la Poste et le courrier chaque jour.
Et toujours pour parler de la Poste, c'est un reportage qui est sur le site sonslutte.net, je ne sais plus exactement, il faut regarder sur Internet. Mais il y a un reportage sur la grève qu'il y a eu des postiers postières à Neuilly. Donc ils ont fait 82 jours de grève et ensuite ça a porté ses fruits. Puisque pendant 2 mois, la direction de la Poste des Hauts-de-Seine refusait délibérément toute négociation, mais elle a été contrainte, face à la détermination des grévistes, de céder sur l'essentiel de leurs revendications. Donc le 19 janvier, les postiers postières de la ville ont signé un protocole de fin de conflit avec la direction de la Poste. Et le lendemain matin, l'actualité des luttes était présente à l'AG de reprise, où la prise de parole du représentant syndical de Sud a résumé ses 82 jours de grève et la signature du protocole de fin de conflit. Voilà, dans le reportage, il y a aussi un entretien réalisé dans un centre de tri avec une postière, voilà, qui dit comment elle a décidé de rejoindre la lutte. Donc ça paye, la lutte paye.
La lutte paye, mais elle est parfois réprimée et c'est vraiment ce qui se passe pour les personnes du Kurdistan en ce moment. Début février, il y a plus de 30 civils kurdes qui ont été assassinés en Turquie. Alors à Lyon, ça a donné le 5, 6 et 7 février à des rassemblements, puis un gros rassemblement le lundi 8 février devant l'hôtel de ville de Lyon avec plusieurs dizaines de personnes. Et à Paris, ces rassemblements ont mal tourné. Donc le gouvernement français protège la politique turque et il y a eu des coups de matraque lors d'un rassemblement en soutien au Kurdistan. Donc pour protester contre les massacres perpétrés au Kurdistan par l'armée et la gendarmerie turque, le Conseil démocratique kurde en France, mais aussi d'autres associations, multiplient les manifestations à Paris et dans tout le pays. Lundi, du coup, 8 février, alors qu'un rassemblement pacifique se tenait devant l'ambassade de Turquie en France, la police a violemment chargé, faisant de nombreux blessés. 33 personnes se sont retrouvées en garde à vue. Parmi elles, Berevan, qui porte maintenant un bras en écharpe et qui témoigne « J'ai été violemment happée par plusieurs CRS. Je me suis retrouvée à terre, frappée et injuriée. J'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai repris conscience, un policier me portait. J'avais le pantalon couvert de sang. C'est celui d'un de mes camarades qui avait essayé de me protéger. Il a reçu des coups sur la tête et à l'arcade sourcilière ouverte. Tous ceux qui ont été arrêtés ont d'abord été regroupés devant l'ambassade turque. Une fois au commissariat du 5e arrondissement, le cauchemar a continué. Menotté, Berevan a dû subir les insultes d'une fonctionnaire de police. En cellule, la jeune femme a fait un malaise. Il aura fallu une vingtaine de minutes avant que la police daigne intervenir. Comme le rappelle Sylvie Jeanne de l'association France Kurdistan, cette intervention policière est aussi le résultat des accords sécuritaires entre la France et la Turquie. Le ministre français de l'Intérieur, du coup Cazeneuve, était encore récemment à Ankara. Ce qui s'est passé à Paris n'est pas un fait divers, c'est une attaque contre les progressistes qui dénoncent la politique d'Erdogan. Et c'est vraiment des choses qu'on retrouve en ce moment assez régulièrement sur les manifestations en soutien à la Turquie. Vous pouvez par exemple sur le site Rebellion retrouver des informations régulières ou alors sur le site Kurdistan autour des luttes qui se passent en ce moment pour le Kurdistan.
Merci. Et maintenant, quelques nouvelles de la lutte de la ZAD, la zone à défendre du coup... La lutte contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, hier, quelques heures après le nouveau remaniement gouvernemental, François Hollande a annoncé, lors d'une interview télévisée, la tenue d'un référendum local d'ici le mois d'octobre sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans la Loire-Atlantique. Mais le président de la République s'est bien gardé de définir le périmètre exact de cette consultation locale en laissant la responsabilité aux élus locaux d'organiser cette consultation. Donc on ne sait pas exactement ce que ça va vouloir dire, en fait, ce référendum local. Du coup, là, il se demandait à quelle échelle ça allait être le référendum. Est-ce que ça allait concerner la Loire-Atlantique seulement, sachant que maintenant, c'est quand même... un projet dont on a beaucoup entendu parler dans les médias qui concerne vraiment beaucoup de personnes. Et là, a priori, il devra être défini à l'initiative des collectivités locales. Voilà. Il y a d'ores et déjà le président du Conseil régional des Pays de la Loire qui a répondu que, que si on lui demandait d'organiser ce référendum, il refuserait. Donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner ce truc-là. Voilà, donc après, ce qui se passe en tout cas à la zone à défendre, c'est qu'il y a une grosse, grosse manifestation qui est toujours prévue le 27 février. Et la CIPAC et la coordination citoyenniste des opposants et opposantes a bien entendu l'annonce du référendum local. Et elle a bien entendu que François Hollande avait répété par deux fois que les travaux pourraient débuter à l'automne 2016, d'où une certaine méfiance quand même vis-à-vis de l'impact de ce référendum, parce qu'on peut se demander qui a légitimité à organiser un référendum sur un projet d'État dont la déclaration d'utilité publique a déjà été publiée, qui va décider de son périmètre, qui décidera de la question. Et quelle information auront les habitants, la population, quels moyens il y aura, quelles questions de fond de ce dossier vont pouvoir surgir, et voilà. Donc ça pose beaucoup de questions, mais en attendant, il y a toujours la mobilisation générale prévue le 27 pour demander, en tout cas, qu'il n'y ait toujours pas d'expulsion tant que les recours juridiques nationaux et européens ne sont pas épuisés. Voilà, pour le moment, il y a des procédures en cours. Et M. Hollande a réaffirmé que ces recours n'étaient pas épuisés. Voilà, donc pour le moment, il n'a pas parlé du tout des expulsions qui sont programmées. Voilà, voilà, pour Notre-Dame-des-Landes. Et sinon, je voulais vous parler d'une carte collaborative qui parle des dispositifs anti-SDF. Voilà, c'est une nouveauté. C'est Rue 89 qui en parle dans un Lyon, Rue 89 Lyon qui en parle dans un article. Voilà, pour un peu visibiliser tous les dispositifs anti-SDF. Alors, vous vous souvenez peut-être en 2014 à Angoulême, qu'il y avait eu notamment, enfin c'est dans les dispositifs les plus scandaleux, mais il y avait eu des bancs qui avaient été grillagés. Tout autour des bancs, il y avait des grillages pour empêcher les gens de s'asseoir. Voilà, donc ça c'était les trucs qu'on fait un peu scandale aussi à Lyon en 2014. Il y a eu un faux chantier. En fait, il y a eu des grillages qui étaient vers la place du pont à la Guillotière, qui avaient été installés pour empêcher les personnes roms traînaient là les journées. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça de partout dans Lyon et dans toutes les villes. Des gros, énormes pots de fleurs qui apparaissent pour que les SDF ne viennent pas. Des gros galets à Toulouse. Il y a eu une affaire aussi sur des galets. Après, il y a des bancs individuels. Donc, c'est plus des bancs où on peut s'allonger. Des grillages de partout. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et du coup, il y a un site internet qui s'est créé pour que tout le monde envoie ses photos faites à Lyon et dans les alentours. Pour prendre conscience de tous ces dispositifs dans l'installation du mobilier qui existent. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire et envoyer des photos à hello@rue89lyon.fr. en précisant l'adresse où vous avez pris les photos. Voilà, comme ça, ça va petit à petit, ça va répertorier tout ce merveilleux mobilier urbain.
Voilà, c'est des trucs que les universitaires et spécialistes appellent la prévention situationnelle. C'est du coup obliger à gérer les personnes par le mobilier, du coup les obliger soit à être statiques, soit à bouger. Et là notamment, du coup, c'est obliger les SDF à bouger, mais du coup pas que les SDF, toutes les personnes qui, eux, ils les appellent les marginaux, mais ça comprend aussi les Roms et plein d'autres catégories de population qui essayent de se réapproprier l'espace public. Et le but, c'est que le mobilier, il empêche aux personnes de se réapproprier l'espace public. Et alors, bravo, vous êtes arrivés à la fin de ce Canu Info, peut-être un peu chaotique. Et donc, on va pouvoir vous donner plein de bons plans pour sortir ce week-end. Et on va commencer par maintenant.
Oui, ce soir, 21h, 21h30, un super concert au Bar des Capucins. Un super groupe qui s'appelle Nidpool qui joue. Après, ça sera Max Lampin. À 21h30.
Moi, je croyais que vous vous appeliez Angle Mort et ensuite Plus, t'as changé. Enfin, bref. Quoi d'autre ce week-end ?
Eh bien, si vous êtes sur la route et que vous tournez, que vous n'avez vraiment pas envie de rentrer sur Lyon, vous pouvez toujours aller à Saint-Julien-Molin-Molette pour un concert de soutien à la ZAD, allée Sainte-Julie. Mais bon, si quand même là, vous avez un peu envie de vous reposer, demain, à partir de 17h, au bar de l'autre côté du pont, le Footwart, qui est du coup un journal papier ou plutôt un fanzine qui s'était un peu arrêté en 2013, va fêter sa résurrection. Et du coup, demain, à partir de 17h, au bar de l'autre côté du pont, 25 cours Gambetta, vous pourrez rencontrer la nouvelle équipe et écouter de la musique et regarder les expos pour connaître tout de ce projet.
Moi, j'ai une info, c'est pour un peu plus longtemps, mais il faut s'inscrire, alors je vous en parle. C'est en fait une formation qui est organisée par le collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Voilà, c'est une formation sur 3 sessions les samedis, pour comprendre la situation en Palestine en 2016. Voilà, donc c'est une inscription pour une vingtaine de personnes et ce sera à partir du 19 mars 2016. Donc vous pouvez aller voir le site Palestine 69.
Et du coup, si vous ne savez pas quoi faire demain soir, vous pouvez toujours vous rendre à l'atelier des canulars. En effet, la compagnie Écoutez Voir commencera sa prochaine tournée par Lyon et sera du coup à l'atelier des canulars pour son spectacle Prendre Corps, qui est un spectacle qui apparemment ne vous laissera pas de marbre. Donc vous pouvez vous rendre à l'atelier des canulars, c'est 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement, près du métro Saxe-Gambetta, pour voir ce spectacle demain à partir de 20h. Et puis on vous a passé là, pendant ce Canu Info, un reportage sur la mobilisation qui a eu assez exceptionnelle hier à la faculté Lyon 2, et notamment quand même à l'intervention des CRS au sein de la faculté. Du coup, Lyon 2 a fait intervenir la police contre les sans-papiers en lutte pour leur inscription. Et par rapport à ces événements, il y a une assemblée générale qui est organisée lundi prochain par le collectif des étudiants étrangers de Lyon sans-papiers et solidaires. Et du coup, cette assemblée générale a lieu lundi, mais elle a aussi lieu à 14h sur le campus des quais de Lyon 2. Et le rendez-vous est donné dans la cour centrale.
Merci à vous. On vous laisse avec Noise Pollution.
Gathered in their masses.